sept chefs d'État sont réunis jeudi à Kinshasa pour évaluer l'application d'un accord sur la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs africains, signé il y a 9 ans à Addis Abeba. C'est leur 10e sommet après celui organisé en 2018 à Kampala. Et autour de leur hôte congolais Félix Tshisekedi, les présidents Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, Yoweri Museveni d'Ouganda, João Lourenço d'Angola, donc Denis Sassou Nguesso du Congo, Brazzaville, Faustine Archange Touadéra de la Centrafrique et Évariste Ndayishimiye du Burundi sont présents dans la capitale de la RDC. Selon un diplomate de la région, donc les 7 dirigeants devraient condamner les acteurs qui apportent des appuis en termes d'approvisionnement, de logistique, en ressources humaines, donc aux forces négatives, ou qui soustraient les responsables des forces négatives à toute poursuite judiciaire. Le chef d'État donc devrait aussi prendre note des opérations militaires menées contre les rebelles des forces démocratiques alliées par les armées congolaises et ougandaises et féliciter la RDC et la mission des Nations Unies pour les efforts notables fournis dans la lutte contre les groupes armés dans l'Est congolais. Dans la sous-région, les 7 chefs d'État devraient saluer l'amélioration des relations entre le Rwanda et l'Ouganda ainsi qu'entre le Rwanda et le Burundi après des périodes de tension. La lutte contre l'impunité est également au programme des discussions. Le Burundi a accepté d'abriter le 11e sommet qui se tiendra en 2023. Les Nations Unies, représentées par leur secrétaire général adjoint chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, l'Union africaine représentée par Moussa Faki, le président de sa commission, la Communauté de développement de l'Afrique australe et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs africains sont des institutions garantes de l'accord signé le 24 février 2013 à Addis Abeba par 11 pays. 2 pays supplémentaires, le Kenya et la Tanzanie, avaient adhéré à cet accord quelques années après. Le genre de réunion que les Occidentaux n'apprécient guère. Il va falloir attendre encore un peu pour voir quelles seraient les manœuvres des Occidentaux pour tenter de saper cette alliance. Au Mali, ils ont osé. La France veut s'accaparer les avancées de l'armée malienne. Florence Parly, ministre des Armées de la France, était face aux députés de son pays pour s'expliquer suite à l'annonce du départ de Barkhane et de Takuba. Le ministre donc a estimé que le retrait de la France est un échec politique des autorités de la transition. Et sur le plan militaire, Florence Parly souligne que le Mali n'est pas un sanctuaire terroriste et que les FAMA sont aujourd'hui une armée bien plus forte qui a montré sur le terrain qu'elle était capable de faire face au groupe armé terroriste, qui est une grande réussite. Il n'était donc plus possible à la France de cacher les réussites spectaculaires de l'armée malienne dans les opérations de sécurisation. Mais attribuant cette réussite à la France, elle a affirmé que Wagner n'est pas la cause du départ donc de Barkhane et de ses alliés. Florence Parly a expliqué qu'ils sont au total 125 000 militaires français qui se sont succédés sur le théâtre des opérations au Mali depuis 2013. Et vantant le mérite des soldats français, Parly a estimé que les militaires français donc, ont fait un travail exemplaire. Depuis 2013, au Mali, ils se sont relayés pour lutter contre le terrorisme et sans leur professionnalisme et leur ardeur au combat, le Mali aurait peut-être connu le même sort, le même destin donc, que l'Irak et aussi la Syrie. Le nouveau jeu diplomatique de la France est de dire maintenant que c'est grâce à la France que l'armée malienne peut se tenir debout face aux groupes terroristes. Alors que c'est avec le départ de la France et de ses alliés que les FAMA ont pu réussir ce véritable coup de force. Il est clair que ce coup de pub vise principalement les pays voisins du Mali, comme pour dire qu'en accueillant les forces françaises, votre armée nationale deviendra aussi forte que celle du Mali. Mais ce qui a toujours inquiété principalement les Occidentaux, c'est bien l'effet domino. Les tensions entre Paris et Bamako donc, sont allées à un degré extrême. Depuis quelques mois, du président Emmanuel Macron à sa ministre des Armées, Florence Parly, en passant par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, le climat donc, s'est détérioré pour des raisons donc, que l'on connaît tous, malheureusement pour les Occidentaux. Depuis, les choses ne sont plus allées comme donc, la France le souhaite. Elles sont allées jusqu'à l'annonce du retrait des forces françaises et européennes du sol malien. La politique néocolonialiste de la France et de ses alliés ne fait qu'augmenter le sentiment anti-français. Et quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, cela les enfonce encore plus. Chose qui n'arrange pas Paris, donc du point de vue politique et économique, car beaucoup de Maliens redoutent que la présence française au Mali depuis 2013 relève des intérêts que le grand public ne connaîtrait pas. Mais des intérêts qui, pour l'heure, seraient totalement compris du peuple malien et même du peuple sahélien. Face à tout ceci, le Mali va donc ouvrir la voie aux autres pays d'Afrique qui cherchent depuis des années leurs indépendances et la vraie indépendance. Le Mali, qui constitue pour beaucoup l'épicentre de l'Afrique de l'Ouest dans le domaine du panafricanisme, maintenant saurait donner donc un nouveau souffle pour que toute l'Afrique puisse se développer finalement aux dépens d'une puissance néocolonialiste dont les peuples ne souhaitent plus subir l'affront. Lors de la manifestation, après l'annonce du retrait de Barkhane et de Takuba, du Mali, des Ivoiriens, des Guinéens, des Burkinabés, des Sénégalais, la diaspora africaine à travers le monde, etc., tous étaient sortis pour accompagner le Mali dans le cadre de cette lutte pour la libération de l'Afrique et du Mali. Le Mali est un peuple frère, un peuple ami, donc nous sommes obligés de venir les aider. Car si ça ne va pas au Mali, ça n'ira pas au Sénégal ni en Côte d'Ivoire. La stabilité doit venir pour nous autres, vivant en paix. C'est le plus important. Je suis d'accord sur le fait que les Maliens disent que la France a échoué dans sa lutte contre le terrorisme au Sahel, a laissé entendre un manifestant. Mais ce commentaire montre simplement que le sentiment du Mali contre la France et ses alliés est partagé au-delà des frontières. L'effet domino sera donc mis en place et malgré le coup de pub que l'oligarchie française tente de mettre en place, pour dire que c'est grâce à la France que l'armée malienne arrive à sécuriser le pays, la vision des Maliens ne changera de toute façon pas. Cette époque est révolue, plus personne ne croit à ces balivernes qui ne servent seulement d'argument politique à l'approche de l'élection présidentielle en France et rien d'autre. À Bangui, 4 soldats français sont accusés de tentative d'assassinat sur la personne du président centrafricain. Y a-t-il une question à élucider malgré l'absence de mobiles et les démentis de Paris et de l'ONU ? Que se passe-t-il avec ces commandos français en Centrafrique ? Donc, les 4 soldats escortant, donc selon l'ambassade française, le général de la MINUSCA, ont été interpellés 21 février à l'aéroport de Bangui. Et ce, au moment où y atterrissait l'avion du président Touadéra. Tentative d'assassinat du chef de l'État centrafricain martèle certains dans le pays. Le conseiller spécial du président de la République centrafricaine a crédité cette théorie. Car en temps normal, explique-t-il, quand les hautes autorités militaires de la MINUSCA viennent en audience avec le chef de l'État ou pour prendre part au Conseil de défense et de sécurité de la RCA, ils arrivent toujours avec leur grosse cylindrée de couleur blanche frappée du signe UN. Or, le convoi en question, qui aurait escorté cette fois un général de la force de l'ONU, ne suivait pas ce protocole. C'est tout de même étonnant qu'une organisation telle que la MINUSCA utilise un véhicule âgé. D'un commerçant, donc de la place pour escorter un chef d'état-major militaire onusien pour traverser tout un quartier qu'elle juge non sécurisé vers l'aéroport international de Bangui, interroge donc le proche de la présidence. Ainsi même, il ne s'agirait probablement pas d'une tentative d'assassinat de la plus haute personnalité de la République. Le conseiller du président centrafricain s'étonne que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, et quelques personnalités de la MINUSCA, dont une brave et charmante dame, se sont vite pressés pour défendre leur poussin sans réflexion aucune. Pour lui, seule une enquête impartiale professionnelle et surtout l'audition du propriétaire du 4x4, qui est donc un ami personnel à moi, dit-il, pourront apporter la lumière à cette fâcheuse scène digne d'un film de Hitchcock, conclut le proche du président Faustin Archange Touadéra. Dans la journée du 22 février, le parquet du tribunal de grande instance de Bangui a communiqué autour de cette affaire. D'après le parquetier, les premiers éléments de l'enquête ont relevé donc que ces hommes armés sont des légionnaires de différentes nationalités, donc français, bulgares, italiens et roumains. Toujours selon le ministère public, ces hommes étaient lourdement armés au moment de leurs interpellations. Ainsi disposait-il de 4 pistolets automatiques avec 10 chargeurs, 3 KH-416 avec 15 chargeurs, une mini-mitrailleuse avec 4 boîtiers, des grenades offensives et divers objets militaires. Tout comme le conseiller du président l'affirme, le parquet s'est également étonné que les hommes appréhendés, au lieu d'utiliser un véhicule estampillé UN, aient préféré utiliser un véhicule civil banalisé de marque Toyota V8 blindé aux vitres teintées, égaré au parking civil à 30 mètres du passage du cortège présidentiel, comme le rapporte le parquet. Le proche du président trouve curieux les démentis hâtifs de Paris et de la mission de l'ONU qui ont qualifié ces accusations de manipulation. L'ambassade regrette vivement cet incident. Elle condamne son instrumentalisation immédiate sur certains réseaux malveillants et la désinformation grossière à laquelle elle donne lieu, a écrit la représentation diplomatique lundi soir. Ils étaient à l'aéroport pour escorter le général. C'est un concours de circonstances qui a fait qu'au même moment, l'avion du président Touadéra atterrissait, a expliqué l'état-major parisien des armées. Dans un communiqué, la MINUSCA affirme qu'elle rejette catégoriquement les accusations donc d'atteinte à la sûreté de l'État. Davy Sende, politologue centrafricain et coordinateur de programme au Madiba Leadership Institute à Dakar, juge également ces démentis hâtifs. « Il y a beaucoup de flou qui entoure cette affaire », souligne-t-il donc dans les médias. Toutefois, selon Ndiaye Ousmane, chercheur au Centre des hautes études de défense et de sécurité de Dakar, cet épisode pourrait s'inscrire dans la guerre d'influence que la France et la Russie se livrent en Centrafrique, au Mali et plus largement dans le précaré français sur le continent. Sur fond de ces échecs, Paris accuse régulièrement les Russes de ternir l'image donc de la France en Afrique. La France s'indigne toujours sur le fait que ses anciennes colonies basculent vers la Russie. C'est une pilule dure à avaler. La Russie continue sa politique de récupération de ses colonies françaises dans plus des pays africains comme le Mali, explique un intervenant. En effet, dans de nombreux pays autrefois colonisés par la France, Paris semble perdre ce qui lui restait d'influence et d'assise populaire. Sa présence, aussi bien militaire que diplomatique, est totalement contestée. Les manifestations anti-françaises sont de plus en plus nombreuses à travers le continent. C'est le cas notamment au Mali et en Centrafrique où la France était militairement très engagée. C'est aussi le cas dans de nombreux autres pays, dont le Burkina Faso, où la jeunesse africaine en particulier dénonce une forme de néocolonialisme. Et bien souvent, les drapeaux russes sont brandis par les manifestants. Selon Ousmane, les Russes sont en train de réussir un bon coup donc, dans cette guerre d'influence. Mais une chose est sûre, c'est dès que quelque chose ne va pas pour Paris en Afrique, ce sont les Russes qui sont pointés du doigt. Ce qui ne signifie pas pour autant que la Russie est impliquée dans toutes ces affaires malheureuses pour la France. C'est souvent la politique de cette dernière considérée comme relevant de l'ingérence qui est mise en cause par les Africains. Et en définitive, ce problème de tentative d'assassinat du président centrafricain reste encore une question à élucider. Mais nous pensons que ce n'est pas dans l'intérêt de la France de commettre cet acte, tout en sachant que rien n'est à exclure, conclut-il. Alors que le continent africain s'ouvre au e-sport et à la professionnalisation du secteur du jeu vidéo, la plupart des initiatives restent liées aux joueurs. Et pourtant, de nombreux éditeurs de jeux africains essaient depuis plusieurs années de proposer des créations issues du continent. 10 studios de jeux en Afrique se sont regroupés sous une même enseigne dans le but d'unifier le secteur des jeux du continent. La coalition a déclaré vouloir développer l'industrie du jeu en Afrique et veut permettre à l'industrie continentale du jeu de débloquer le prochain milliard de joueurs dans le monde. L'annonce a été faite ce mercredi dans le cadre donc de la Semaine des Jeux africains 2022 qui se déroule au Cap en Afrique du Sud. Le PAGG veut doubler les revenus du secteur chaque année et placer l'Afrique sur la carte de l'industrie mondiale du jeu. Malgré la croissance massive du nombre de joueurs sur le continent, il existe encore très peu de contenu développé au niveau local. Selon le rapport 2021 de la GSMA sur l'économie mobile, 303 millions de personnes, soit environ 28% de la population d'Afrique subsaharienne, sont connectées à l'Internet mobile et dessinent donc un marché à très grand potentiel pour l'industrie africaine du jeu vidéo. D'après une étude de Games Industry Africa 2021, l'Afrique du Sud constitue le plus grand marché de l'industrie du jeu sur le continent avec un revenu annuel de 290 millions de dollars, suivi du Nigeria, du Ghana, du Kenya et de l'Éthiopie. Le PAGG rassemblera donc les jeux développés par ses membres en vue de leur publication sur Gara, une boutique de jeux africains, et Afrocomics, donc un centre de contenu pour la création afrocentrique. Ces canaux permettront la distribution et la monétisation donc du contenu en autorisant des options de paiement adaptées au contexte local, notamment la facturation par paiement mobile. Selon les promoteurs de l'initiative, d'autres studios devraient bientôt rejoindre le groupe. Organisée conjointement par le Conseil mondial de l'eau et le gouvernement sénégalais, la 9e édition du Forum mondial de l'eau se tiendra donc à Dakar, au Sénégal, du 21 au 26 mars 2022, avec pour thème la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. C'est la première fois que cet événement international se tient en Afrique subsaharienne. Conçu comme un catalyseur de rencontres, favorisant l'engagement et le passage à l'action, le Forum mondial de l'eau a pour objectif de renforcer la capacité du monde à répondre aux défis contemporains liés à l'eau. Cet événement s'articule pour cette 9e édition autour de 4 priorités: la sécurité de l'eau et l'assainissement, l'eau pour le développement rural, la coopération, les outils et moyens, incluant les questions cruciales du financement, de la gouvernance, de la gestion des connaissances et des innovations. Surnommé le Forum des réponses, le 9e Forum mondial de l'eau vise donc à obtenir des résultats probants et des solutions pour les communautés du monde entier. Il réunira un public de haut niveau issu de tous les continents, qu'il s'agisse de représentants d'organisations internationales et non gouvernementales, de grandes entreprises, de fondations et associations humanitaires, de chercheurs et académiciens ou de femmes et d'hommes politiques. Le 9e Forum mondial de l'eau se veut également une plateforme d'expression pour toutes les parties prenantes, y compris donc les groupes de femmes, les jeunes, les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs, et contribuera ainsi à la transformation qualitative de la vie quotidienne des populations et à l'amélioration des performances des secteurs productifs. Dans le monde, la traçabilité des matières premières agricoles est devenue primordiale dans un contexte de hausse de la sensibilité des consommateurs aux questions liées à la déforestation ou au travail des enfants. De l'huile de palme au café en passant par le cacao, les enjeux sont importants. En Côte d'Ivoire, le Conseil du café cacao compte déployer d'ici le 1er avril prochain la phase pilote de son programme de traçabilité du cacao produit dans le pays. Cette initiative entend parvenir à terme à un système de suivi intégrale du cacao depuis les plantations jusqu'aux principaux ports d'exportation. Elle utilisera plusieurs techniques dont l'identification de l'ensemble des cacaoculteurs, donc 800 000 personnes, et d'autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement grâce à des numéros d'enregistrement. Par ailleurs, les sacs de jute employés pour le conditionnement du cacao seront marqués pour suivre la progression des fèves dans le circuit de commercialisation, et des cartes de paiement numériques intégrant diverses fonctionnalités seront octroyées aux exploitants. D'après donc le numéro 1 du régulateur, les différents projets de traçabilité déjà mis en œuvre par les entreprises du secteur devront soutenir le programme national. Cette démarche est la dernière manœuvre en date des autorités ivoiriennes pour accélérer la lutte contre la déforestation et le travail infantile dans la filière cacao, qui représente l'un des principaux piliers de l'économie. Ceci dans un contexte où les pressions pour plus de durabilité vont de plus en plus croissantes de la part des organisations environnementales et de l'Union européenne, son premier marché. En Côte d'Ivoire, la filière cacao fournit des revenus à près de 5 millions de personnes et compte pour 40% des exportations de marchandises du pays. L'interconnexion électrique des pays de la CEDEAO font partie des projets phares d'intégration pilotés par l'organisation. Actuellement, seuls 9 pays membres ont un partenariat dans le domaine. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et son homologue nigérian Mohamed Bazoum ont présidé ce mardi à Niamey la cérémonie de lancement des travaux du projet d'interconnexion électrique Dorsal Nord. Le projet doit relier, outre le Niger, 3 pays de la sous-région, à savoir le Bénin, le Nigeria et le Burkina Faso. Ce projet est l'un des programmes phares et intégrateurs de la CEDEAO, car il facilitera le commerce de l'électricité dans la sous-région et renforcera le volume régional des échanges électriques, qui est actuellement faible, donc à 9%, malgré l'interconnexion actuelle de 9 pays sur 14, explique le commissaire chargé de l'énergie et des mines de la CEDEAO. Sur son parcours, la Dorsal Nord permettra notamment donc l'électrification de pas moins de 432 localités rurales au Niger, ainsi que 179 au Burkina Faso, contribuant à l'amélioration du taux d'électrification de la sous-région ouest-africaine.